Chapitre 31. Buse. Le lendemain, l'euphorie que ressentait Ron, après avoir aidé Griffon d'or à arracher de justesse la coupe de Quidditch, était telle qu'il n'arrivait plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Il ne parlait que du match, et Harry et Hermione avaient le plus grand mal à trouver une occasion de mentionner l'existence de Grope. D'ailleurs, ils n'essayaient pas beaucoup, ni l'un ni l'autre n'ayant très envie d'être le premier à ramener Ron si brutalement à la réalité. Comme c'était à nouveau une belle et chaude journée, ils le persuadèrent de les accompagner au dehors pour aller réviser sous le hêtre, au bord du lac, où ils couraient moins de risques d'être entendus que dans la salle commune. Au début, Ron ne se montra guère enthousiaste. Il était trop heureux que tout le monde lui tapote le dos en passant devant son fauteuil, sans parler des « Wesley est notre roi » qui, de temps à autre, retentissaient délicieusement à ses oreilles. Mais il finit par admettre qu'un peu d'air frais lui ferait du bien. Ils étalèrent leurs livres à l'ombre du hêtre et s'installèrent dans l'herbe pour écouter Ron leur raconter une fois de plus, il leur sembla que c'était la 12e, comment il avait réussi à bloquer un tir dans ses buts. « Vous comprenez, j'avais déjà laissé passer celui de Davis, alors je ne me sentais pas trop sûr de moi, mais je ne sais pas pourquoi quand Bradley m'a foncé dessus, en surgissant tout d'un coup, je me suis dit « Cette fois, tu peux y arriver !» J'avais une seconde pour décider de quel côté plonger. Il avait l'air d'aller vers le but de droite, ma droite, sa gauche à lui. Mais j'avais la drôle d'impression qu'il feintait, et donc j'ai pris le risque de filer à gauche, c'est-à-dire sur sa droite. Et bon, bah, vous avez vu vous-même ce qui est arrivé, conclut-il modestement. Sans aucune nécessité, il se passa la main dans les cheveux en se donnant l'air intéressant du sportif décoiffé par le vent. Puis il regarda autour de lui, soucieux de voir si les élèves qui se trouvaient à proximité, en l'occurrence une bande de poufsouffles de troisième année, l'avaient entendu. 5 minutes plus tard, quand j'ai vu arriver Sambers... « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ron au milieu de sa phrase en regardant Harry. « Pourquoi tu souris ?»«
Je souris pas, » répondit précipitamment Harry.
Il baissa les yeux sur ses notes de métamorphose en essayant de reprendre son sérieux. En fait, Ron venait de lui rappeler un autre joueur de Gryffondor qu'il avait vu se passer la main dans les cheveux sous ce même arbre.
« Je suis content qu'on ait gagné, voilà tout. »«
Oui, on a gagné, » dit lentement Ron en savourant ses mots. « Tu as vu la tête de Tsang quand Ginny a attrapé le vif d'or juste sous son nez ?»«
J'imagine qu'elle a pleuré, » demanda Harry d'un ton amer.
« Oui, mais plutôt de rage que d'autre chose. »
Ron fronça les sourcils.
« Vous l'avez vu jeter son balai par terre quand elle a atterri, non ?»«
dit Harry.
« Eh bien... »
« En vérité,
non, Ron, » répondit Hermione avec un profond soupir.
Elle posa son livre et le regarda d'un air contrit.
« En fait, le seul moment du match auquel on est assisté, Harry et moi, c'est le premier but de Davis. »
Les cheveux soigneusement ébouriffés de Ron semblèrent s'aplatir de déception.
« Vous n'avez pas vu le match ?»
dit-il d'une petite voix en les regardant l'un après l'autre.
« Vous n'avez vu aucun des tirs que j'ai bloqués ?»
« Ben, non, » avoua Hermione, en tendant vers lui une main apaisante.
« Mais ce n'est pas nous qui voulions partir, on a été obligés. »«
Ah ouais, »
dit Ron, dont le teint devenait de plus en plus rouge.
« Et pourquoi ?»«
À cause de Hagrid, » répondit Harry. « Il avait décidé de nous dire, enfin, pourquoi il est couvert de plaies et de bosses depuis qu'il est revenu de chez les géants. Il a demandé qu'on l'accompagne dans la forêt. On n'avait pas le choix, tu sais comment il est. »
En tout cas, en 5 minutes, ils lui racontèrent toute l'histoire. Lorsqu'ils eurent terminé, l'indignation de Ron avait fait place à une totale incrédulité.
« Il en a ramené un qu'il a caché dans la forêt ?»«
Ouais, » dit Harry d'un ton sinistre.
« Non !»
murmura Ron comme si ce simple mot avait eu le pouvoir de modifier la réalité.
« Non, c'est impossible !»«
C'est pourtant vrai !»
assura Hermione d'une voix ferme.
« Grope fait environ 5 mètres de haut. Il adore des racines et des pins qui en font 6, et il me connaît sous le nom de... »
Elle renifla d'un air dédaigneux.
« Hermie. »
Ron eut un rire nerveux.
« Et Hagrid veut que nous lui apprenions l'anglais. »«
Oui, » acheva Harry.
« Il a perdu la tête, »
dit Ron d'une voix proche de l'épouvante.
« Oui, »
répondit Hermione avec colère. Elle tourna une page de son manuel du cours moyen de métamorphose et jeta un regard noir à des schémas montrant un hibou qui se transformait en une paire de jumelles de théâtre.
« Oui, je commence à croire qu'il est vraiment devenu fou, mais malheureusement, il nous a fait faire une promesse à Harry et à moi. »
« Il ne faudra pas la tenir, voilà tout !»
répliqua Ron d'un ton décidé.
« Enfin quoi? On a des examens? On est déjà à ça ?»
Il approcha son index tout près de son pouce d'être renvoyé.
« En plus, vous vous souvenez de Norbert? Vous vous souvenez d'Aragog? Est-ce que ça nous a jamais servi à quoi que ce soit d'approcher les monstres que fréquente Hagrid ?»« Je sais bien. L'ennui, c'est qu'on a promis, »
dit Hermione d'une toute petite voix. Ron se lissa les cheveux du plat de la main pour les recoiffer. Il paraissait inquiet.
Enfin, soupira-t-il, Hagrid n'a pas encore été renvoyé, hein? Alors s'il a réussi à tenir jusque-là, peut-être qu'il tiendra encore jusqu'au bout du trimestre et qu'on n'aura pas besoin d'aller voir Groupe.
Le parc du château étincelait au soleil comme si on venait de le repeindre de frais. Le ciel sans nuages se souriait à lui-même à la surface scintillante du lac. Les pelouses satinées ondulaient par moments au souffle d'une faible brise. Juin était là, mais pour les cinquièmes années, il ne signifiait plus qu'une seule chose. Les buses avaient fini par arriver. Leurs professeurs ne leur donnaient plus de devoirs à faire. Les cours étaient à présent consacrés à réviser les sujets les plus susceptibles de tomber aux examens. Cette atmosphère fébrile et résolue avait chassé de l'esprit de Harry à peu près tout ce qui ne concernait pas les buses. Parfois, cependant, il se demandait pendant les cours de potions si Lupin avait jamais dit à Rogue qu'il devait continuer à donner des leçons d'occlumencie à Harry. Si tel était le cas, Rogue avait ignoré Lupin aussi superbement qu'il ignorait Harry à présent. Ce qui d'ailleurs lui convenait très bien. Il était suffisamment occupé et énervé pour ne pas avoir besoin de cours supplémentaires avec Rogue. Et, à son grand soulagement, Hermione était bien trop affairée ces temps-ci pour le harceler au sujet de l'occlumencie. Elle passait un temps considérable à marmonner toute seule dans son coin et n'avait plus laissé ni chapeau ni écharpe aux elfes de maison depuis des jours et des jours. Elle n'était pas la seule à se comporter étrangement à l'approche des buses. Ernie Macmillan avait pris l'habitude exaspérante de poser des questions aux autres sur leur façon de réviser.
« Vous y passez combien d'heures par jour, vous ?»
demanda-t-il à Harry et à Ron, une lueur démente dans les yeux, alors qu'ils attendaient le début du cours de botanique.
« J'en sais rien, » répondit Ron. « Quelques-unes.
»« Plus ou moins de 8 ?»«
Moins, sans doute, » dit Ron, l'air un peu inquiet.
« Moi, j'en fais 8, » affirma Ernie en gonflant la poitrine. « 8 ou 9. Je travaille 1 heure chaque jour avant le petit déjeuner. 8, c'est ma moyenne. Pendant les week-ends, je peux en faire 10. » Les bons jours. J'en ai fait 9 et demi lundi dernier. Mardi, c'était moins bien. Seulement 7h15. Mais mercredi,
Harry fut profondément reconnaissant au professeur Chourave d'être apparu à cet instant précis pour les faire entrer dans la serre numéro 3, forçant Ernie à interrompre sa litanie. Drago Malfoy, lui, avait trouvé un autre moyen de semer la panique.
Évidemment, c'est pas du tout ce qu'on croit.
L'avait-on entendu dire à Crabbe et à Goyle alors qu'ils attendaient le cours de potions quelques jours avant les examens?
« C'est une question de relation. Pendant des années, mon père a entretenu des rapports amicaux avec la présidente de l'Académie des examinateurs magiques, la vieille Griselda Marchbank. On l'a invitée à dîner et tout ça. »«
Tu crois que c'est vrai ?» murmura Hermione à Harry et à Ron, soudain inquiète.
« Et si ça l'est, de toute façon, on n'y peut rien. » répondit sombrement Ron.
Moi, je ne crois pas que ce soit vrai, dit Neville derrière eux, tout simplement parce que Griselda Marchbank est une amie de ma grand-mère et qu'elle ne lui a jamais parlé des Malfoy. De quoi elle a l'air?
Demanda aussitôt Hermione.
Elle est très stricte.
Elle ressemble un peu à grand-mère,
répondit Neville d'une voix étouffée.
Le fait de la connaître ne peut pas faire de mal, non?
Lui dit Ron d'un ton encourageant.
Oh! « Je ne pense pas que ça changera grand-chose, »
répliqua Neville encore plus accablé.
« Grand-mère n'arrête pas de dire au professeur Marchbank que je ne suis pas aussi doué que mon père. Enfin bon, vous avez vu comment elle est quand on s'est rencontrés à Sainte-Mangouste. »
Neville fixait le sol. Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard mais ne surent que dire. C'était la première fois que Neville évoquait leur rencontre à l'hôpital des sorciers. Dans le même temps, un marché noir florissant s'était développé parmi les 5e et les 7e années pour vendre des produits destinés à augmenter la concentration et l'agilité mentale et à diminuer le besoin de sommeil. Ron et Harry étaient très tentés par la bouteille d'élixir cérébral de Baruffio que leur proposait Eddie Carmichael, un élève de 6e année de Serre d'Aigle. Il jurait que c'était uniquement grâce à cela qu'il avait obtenu 9 mentions optimales lorsqu'il avait passé ses buses. Et il leur en proposait un demi-litre pour seulement 12 galions. Ron promit à Harry qu'il lui rembourserait sa part le jour où il quitterait Poudlard et qu'il gagnerait sa vie. Mais avant qu'il n'ait pu conclure le marché, Hermione confisqua la bouteille à Carmichael et la vida dans les toilettes.
« Hermione, on voulait l'acheter !» s'écria Ron. « Ne sois pas stupide » répliqua-t-elle d'un ton exaspéré. « Pourquoi ne pas prendre la griffe de dragon en poudre de Harold Dingle pendant que tu y es ?»«
Dingle a de la griffe de dragon en poudre ?» demanda Ron, intéressé.
« Plus maintenant. » répondit Hermione. « Je l'ai également confisqué. De toute façon, aucun de ces trucs-là n'est efficace, tu sais. »«
Je te demande pardon, mais la griffe de dragon, ça marche, hein, » protesta Ron. « Il paraît que ça stimule vraiment le cerveau. On a l'esprit beaucoup plus éveillé pendant quelques heures. Hermione, donne-moi juste une petite pincée. Allez quoi, ça peut pas faire de mal. »«
Si, justement, » répondit-elle d'un ton grave. « J'y ai jeté un coup d'œil, et en fait, ce sont des crottes de doxy séchées. »
Cette révélation modéra singulièrement l'envie de Harry et de Ron de recourir à des stimulants intellectuels. Leurs horaires d'examen et les détails de la marche à suivre leur furent communiqués lors du cours de métamorphose.
« Comme vous pouvez le constater, »
commenta le professeur McGonagall tandis qu'il recopiait les dates et les heures d'examen affichées au tableau noir,
« vos épreuves de buse sont réparties sur 2 semaines. Vous passerez la théorie le matin et la pratique l'après-midi. Bien entendu, votre épreuve pratique d'astronomie aura lieu la nuit. Je dois maintenant vous avertir que les sortilèges les plus stricts ont été mis en œuvre pour lutter contre la fraude. Les plumes à réponse intégrées sont interdites dans les salles d'examen, ainsi que les rappels-tout, les manchettes copieuses et l'encre autocorrectrice. Chaque année, hélas, il se trouve au moins un élève pour penser qu'il ou elle parviendra à contourner le règlement de l'Académie des examinateurs magiques. J'espère simplement que ce ne sera pas quelqu'un de Gryffondor. Notre nouvelle directrice... »
Le professeur McGonagall prononça ce mot avec la même expression que celle de la tante Pétunia lorsqu'elle se trouvait confrontée à une tâche particulièrement tenace.
« A demandé aux responsables des maisons de prévenir les élèves que toute tentative de tricherie sera très sévèrement punie car, bien sûr, les résultats de vos examens reflèteront le nouveau régime imposé par la direction de l'école. »
Le professeur McGonagall laissa échapper un infime soupir. Harry vit frémir les narines de son nez pointu.
Ce n'est cependant pas une raison pour ne pas donner le meilleur de vous-même. Vous devez d'abord penser à votre propre avenir. S'il vous plaît, professeur,
dit Hermione la main en l'air,
quand connaîtrons-nous nos résultats?
Un hibou vous sera envoyé au mois de juillet, répondit le professeur McGonagall.
« Très bien !»
commenta Dean dans un murmure parfaitement audible. « Comme ça, on aura l'esprit tranquille jusqu'aux vacances !» Harry s'imagina 6 semaines plus tard, assis dans sa chambre de Private Drive, attendant les résultats de ses buses. Enfin, au moins, pensa-t-il, il était sûr de recevoir un peu de courrier cet été. Leur premier examen, théorie des sortilèges, devait avoir lieu le lundi matin. Le dimanche, après déjeuner, Harry accepta de tester les connaissances d'Hermione, mais il le regretta presque aussitôt. Très agitée, elle n'arrêtait pas de lui arracher le livre des mains pour vérifier l'exactitude de sa réponse. Finalement, elle lui donna un coup sur le nez avec le coin de réussir ses sortilèges.
« Tu n'as qu'à te tester toi-même » dit-il d'un ton ferme en lui rendant le livre les yeux humides.
Pendant ce temps, Ron relisait 2 ans de notes prises pendant les cours de sortilèges.
Il s'était bouché les oreilles et ses lèvres remuaient silencieusement.
Simus Finnigan, allongé par terre sur le dos, récitait la définition d'un sortilège autonome que Dean vérifiait dans le livre des sorts et enchantements niveau 5. Quant à Parvati et Lavande, elles pratiquaient les charmes de locomotion en faisant faire à leur boîte de crayons une course autour de la table. Ce soir-là, le dîner ne fut guère animé. Harry et Ron ne parlèrent pas beaucoup, mais mangèrent de bon appétit après avoir passé une rude journée en révisions diverses. Hermione, en revanche, posait sans cesse son couteau et sa fourchette et plongeait sous la table pour y prendre son sac, d'où elle retirait un livre dans lequel elle vérifiait un fait ou un chiffre. Ron avait commencé à lui dire qu'elle ferait bien de prendre un bon repas si elle voulait dormir cette nuit, lorsque la fourchette d'Hermione lui glissa des doigts et tomba dans son assiette avec un tintement sonore.
« Oh, ma parole !»
dit-elle d'une voix faible en fixant les yeux le hall d'entrée.
« Ce sont eux, les examinateurs !»
Harry et Ron pivotèrent instantanément sur leur banc. Par la porte de la grande salle, on apercevait Ombrage, en compagnie d'un petit groupe de sorcières et de sorciers apparemment très âgés. Harry fut heureux de constater qu'Ombrage avait l'air assez nerveuse.
« Vous voulez qu'on aille voir de plus près ?»
proposa Ron. Harry et Hermione acquiescèrent d'un signe de tête, et tous trois se précipitèrent vers le hall, ralentissant l'allure au moment où ils franchissaient la porte afin de passer d'un pas tranquille devant les examinateurs. Harry pensa que le professeur Marchbank devait être la minuscule sorcière voûtée, au visage si ridé qu'on l'aurait cru enveloppée de toile d'araignée. Ombrage s'adressait à elle avec déférence. Le professeur Marchbank semblait un peu sourde et lui répondait en élevant la voix, bien qu'elle ne fût qu'à 50 centimètres d'elle.
Hein? Ah oui, oh, le voyage s'est très bien passé, très très bien passé, nous l'avons déjà fait souvent,
disait-elle d'un ton impatient.
Je n'ai pas eu de nouvelles de Dumbledore ces temps derniers,
ajouta-t-elle en scrutant le hall comme si elle espérait le voir soudain surgir d'un placard à balai.
« Vous n'avez aucune idée de l'endroit où il se trouve, je suppose ?»«
Pas la moindre !» répondit Ombrage.
Elle jeta un regard malveillant à Harry, Ron et Hermione qui traînaient au pied de l'escalier pendant que Ron faisait semblant de renouer les lacets de ses chaussures.
« Mais j'imagine que le ministère de la magie retrouvera bientôt sa trace, hein ?»« Hein ? Ah oui, j'en doute !»
cria la minuscule sorcière.
« Pas si Dumbledore a décidé de rester caché. Je suis bien placé pour le savoir. C'est moi-même qui étais son examinatrice quand il a passé ses aspics de métamorphose et de sortilège. Et il a fait, avec sa baguette magique, des choses que je n'avais encore jamais vues. »«
Oui, eh bien !»
reprit le professeur Ombrage, alors que Harry, Ron et Hermione montaient l'escalier aussi lentement que possible.
« Permettez-moi de vous conduire à la salle des professeurs. Je pense que vous prendrez bien une tasse de thé après votre voyage. »
La soirée ne fut pas très détendue. Chacun essayait de se lancer dans des révisions de dernière minute, mais personne ne semblait arriver à grand-chose. Harry monta se coucher de bonne heure et resta étendu les yeux ouverts pendant ce qui lui parut des heures. Il se rappela son entretien d'orientation et la déclaration furieuse de McGonagall disant qu'elle l'aiderait à devenir un aurore, même si c'était la dernière chose qu'elle devait faire dans sa vie. Maintenant que les examens étaient là, il regrettait de ne pas avoir formulé une ambition plus accessible. Il savait qu'il n'était pas le seul à rester éveillé, mais personne ne parla dans le dortoir, et ils finirent par s'endormir l'un après l'autre. Le lendemain, au petit déjeuner, les cinquièmes années ne parlèrent pas davantage. Parvati murmurait des formules magiques devant sa salière agitée de soubresauts. Hermione relisait réussir ses sortilèges si vite que ses yeux paraissaient flous. Neville, lui, ne cessait de faire tomber sa fourchette et son couteau et de renverser la marmelade. À la fin du petit déjeuner, les cinquièmes et les septièmes années se rassemblèrent dans le hall d'entrée, tandis que les autres élèves se rendaient à leur cours. Puis, à 9h30, ils furent appelés classe par classe pour revenir dans la grande salle qui avait été réaménagée exactement comme Harry l'avait vu dans la pancine lorsque son père, Sirius et Rogue, passaient eux-mêmes leur buse. Les quatre grandes tables avaient disparu, remplacées par des tables individuelles alignées côte à côte. À l'autre bout de la salle, le professeur McGonagall faisait face aux élèves. Lorsque tout le monde se fut assis et que le silence revint, elle annonça.
« Vous pouvez commencer. »
Elle se tourna alors vers un énorme sablier posé à côté d'elle sur un bureau où s'étalaient également des plumes, des encriers et des rouleaux de parchemin de secours. Le cœur battant, Harry retourna son questionnaire. Trois rangées à sa droite, à quatre tables devant lui, Hermione avait déjà commencé à écrire. Elle lut la première question. Donnez la formule et B. Décrivez le mouvement de baguette magique permettant de faire voler un objet. Harry eut le souvenir fugitif d'une massue qui s'élevait très haut dans les airs et retombait avec un craquement sinistre sur le crâne épais d'un troll. Esquissant un sourire, il se pencha sur son parchemin et commença à écrire.
« Ce n'était pas trop difficile, hein ?»
demanda Hermione 2 heures plus tard dans le hall d'entrée. L'air anxieux, elle serrait toujours son questionnaire contre elle.
« Je me demande si j'ai dit tout ce que je savais sur les charmes de réjouissance. Il ne me restait plus assez de temps. Vous avez parlé de l'antisort contre les hoquets ? Je ne savais pas s'il fallait le mettre. Peut-être que ça faisait trop. Et à la question 23 ?»«
Hermione, » l'interrompit Ron d'un air grave, « ne recommence pas. On va pas refaire chaque examen après coup. C'est déjà assez pénible de le passer une seule fois. » Les 5e année déjeunèrent avec les autres élèves. Les 4 grandes tables avaient été remises en place à midi. Puis se rendirent dans la petite pièce adjacente, à la grande salle, où ils attendirent de passer leur épreuve pratique. Tandis que de petits groupes étaient appelés par ordre alphabétique, ceux qui restaient derrière marmonnaient des incantations et s'exerçaient à des mouvements de baguette, en donnant parfois des coups involontaires dans l'œil ou dans le dos. On appela le nom d'Hermione. Tremblante, elle sortit en compagnie d'Anthony Goldstein, Gregory Goyle et Daphné Greengrass. Les élèves qui avaient déjà passé leur épreuve ne revenaient pas dans la pièce. Harry et Ron n'eurent donc aucune idée de la façon dont Hermione s'en était tirée.
« Elle a sûrement réussi. Souviens-toi, elle a obtenu 120% de bonnes réponses à l'un des tests de sortilège qu'on lui a fait passer, » dit Ron.
10 minutes plus tard, Flitwick appela.
« Parkinson Pansy ? Pa-t-il Padma ? Pa-t-il Parvati ? Potter, Harry ?»«
Bonne chance, » dit Ron à voix basse.
Harry se rendit dans la grande salle en serrant si fort sa baguette magique que sa main tremblait.
« Le professeur Tufty est libre, Potter !»
couina le professeur Flitwick qui se tenait près de la porte. Il lui montra le plus vieux et le plus chauve des examinateurs. Il était assis à une petite table dans le coin opposé, non loin du professeur Marchbank qui était en train d'interroger Drago Malfoy.
« Potter, c'est cela, hein ?»
dit le professeur Tufty. Il consulta ses notes et regarda Harry par-dessus son pince-nez.
« Oh, le célèbre Potter !»
Du coin de l'œil, Harry vit nettement Malfoy lui lancer un regard assassin. Le verre à vin qu'il était en train de faire léviter tomba par terre et se fracassa. Harry ne put s'empêcher de sourire, et le professeur Tufty lui rendit son sourire d'un air encourageant.
« Très bien, » dit-il. La voix chevrotante. « Aucune raison d'avoir le trac. Maintenant, je vais vous demander de prendre ce coquetier et de lui faire faire la roue plusieurs fois de suite. »
Dans l'ensemble, Harry estima qu'il s'était bien débrouillé. Son sortilège de lévitation était sans aucun doute beaucoup mieux réussi que celui de Malfoy. Mais il s'en voulait d'avoir confondu la formule du changement de couleur avec celle des sortilèges de croissance. Le rat, auquel il aurait dû donner une teinte orange, s'était mis à enfler jusqu'à devenir aussi grand qu'un blaireau, avant que Harry ne puisse rectifier son erreur. Il était content qu'Hermione ne se soit pas trouvée dans la grande salle à ce moment-là, et se garda bien de lui relater l'incident. En revanche, il en parla à Ron, qui, de son côté, avait changé une assiette en un gros champignon, sans avoir la moindre idée de la façon dont il s'y était pris. Ils n'eurent pas le temps de se détendre ce soir-là. Après le dîner, tout le monde remonta directement dans la salle commune et se plongea dans des révisions pour les épreuves de métamorphose du lendemain. Lorsque Harry alla se coucher, sa tête bourdonnait de théories et de sortilèges complexes. Le lendemain matin, au cours de l'épreuve écrite, il oublia la définition du sortilège de transfert. L'épreuve pratique, cependant, aurait pu être pire. Au moins, il avait réussi à faire disparaître complètement son iguane, alors que la malheureuse Anna Abbott, à la table voisine, perdait complètement ses moyens et transformait son furet en un vol de flamant rose. Il fallut interrompre l'examen 10 bonnes minutes pour rattraper tous les oiseaux et les faire sortir de la salle. L'examen de botanique eut lieu le mercredi. En dehors de la morsure que lui infligea un géranium dentu, Harry estima s'en être assez bien sorti. Le jeudi, ce fut le tour de la défense contre les forces du mal. Pour la première fois, Harry était sûr d'avoir réussi. Il n'eut aucune difficulté à répondre aux questions écrites et prit un plaisir particulier, au cours de l'épreuve pratique, à réaliser tous ses contre-maléfices
et ses sortilèges défensifs sous les yeux d'Ombrage qui l'observait avec froideur debout près de la porte du hall.
Oh, bravo! S'écria le professeur Tofty, qui, cette fois encore, lui faisait passer l'épreuve, lorsqu'il repoussa un épouvantard grâce à un sortilège impeccable.
Oh, non, c'est vraiment remarquable! Eh bien, je crois que ce sera tout, Potter, à moins que...
Il se pencha légèrement en avant.
J'ai entendu dire par mon très cher ami Tiberius Ogden que vous étiez capable de produire un patronus. Si vous voulez tenter un point supplémentaire...
Harry leva sa baguette, fixa Ombrage des yeux et imagina qu'elle était renvoyée. Spero patronum! Son cerf argenté jaillit à l'extrémité de la baguette magique et traversa la grande salle au petit galop. Les autres examinateurs se retournèrent pour le suivre des yeux, et lorsqu'il se volatilisa en une brume d'argent, le professeur Tufty applaudit avec enthousiasme de ses mains noueuses sillonnées de veines.
« Excellent, excellent !» s'exclama-t-il. « Très bien, Potter, vous pouvez partir. »
Quand Harry passa devant Ombrage, près de la porte, leurs regards se croisèrent. Un sourire mauvais flottait sur la bouche large et molle de la directrice, mais Harry n'y prêta aucune attention. À moins de se tromper lourdement, il venait d'obtenir une mention optimale à l'épreuve de défense contre les forces du mal. Mais il se promit de n'en rien dire à personne, au cas précisément où il se tromperait. Le vendredi, Harry et Ron disposèrent d'une journée libre tandis qu'Hermione passait ses épreuves de runes anciennes. Comme ils avaient encore tout un week-end devant eux, ils s'autorisèrent une pause dans les révisions et firent une partie d'échecs magiques, s'étirant et bâillant près de la fenêtre ouverte qui laissait pénétrer l'air tiède de l'été. Au loin, Harry apercevait Hagrid en train de donner un cours en lisière de la forêt. Il essayait de deviner quelle créature il faisait étudier à ses élèves, sans doute une licorne car les garçons restaient un peu en retrait. Lorsque le portrait de la grosse dame pivota pour laisser entrer Hermione, visiblement de très mauvaise humeur.
« Comment ça s'est passé, les runes ?»
demanda Ron en bâillant.
« J'ai mal traduit, Horace, » répondit-elle avec colère. « Ça veut dire association, pas défense. J'ai confondu avec Aiwas. »
« Oui, bah c'est qu'une simple erreur !» commenta Ron d'une voix nonchalante. « Ça t'empêchera pas de... »«
Oh, tais-toi, tais-toi !» répliqua Hermione furieuse. « C'est le genre d'erreur qui peut faire la différence entre un succès et un échec. Et en plus, quelqu'un a encore mis un nifleur dans le bureau d'Ombrage. Je ne sais pas comment ils ont fait pour forcer la nouvelle porte, mais je suis passée par là et Ombrage hurlait à s'en casser la voix. D'après ce que j'ai entendu, le nifleur a essayé de lui arracher un bout de jambe. »
« Très bien !» dirent ensemble Harry et Ron.
« Non, ce n'est pas très bien du tout !»
protesta Hermione avec ardeur.
« Elle pense que c'est Hagrid qui fait ça, vous vous souvenez? Et nous ne voulons pas que Hagrid soit renvoyé. »«
Il est en train de donner un cours, elle ne peut pas l'accuser !» fit remarquer Harry en montrant la fenêtre.
« Oh, tu es si naïf parfois! Tu crois vraiment qu'Ombrage va attendre d'avoir des preuves ?»
s'exclama Hermione. Apparemment décidée à ne pas laisser sa fureur retomber, elle se dirigea à grands pas vers le dortoir des filles en claquant la porte derrière elle.
« Quelle jeune fille adorable, d'un caractère toujours charmant !»
dit Ron à voix basse en poussant sa reine pour prendre un cavalier à Harry. La mauvaise humeur d'Hermione persista pendant tout le week-end, mais Harry et Ron n'y prêtèrent aucune attention car ils passèrent la plus grande partie de leur samedi et de leur dimanche à réviser l'examen de potions du lundi. C'était l'épreuve que Harry redoutait le plus et dont il était sûr qu'elle mettrait un terme à ses ambitions d'aurore. L'épreuve écrite lui parut sans nul doute très difficile, même s'il pensait obtenir une excellente note à la question du polynectar. Il en avait décrit les effets avec d'autant plus de précision qu'il en avait pris lui-même en toute illégalité au cours de sa deuxième année. En revanche, l'épreuve pratique de l'après-midi ne fut pas aussi redoutable qu'il s'y était attendu. Hors de la présence de Rogue, il se rendit compte qu'il était beaucoup plus détendu que d'habitude pour préparer ses potions. Neville, assis tout près de lui, semblait également plus heureux que dans les cours de Rogue. Lorsque le professeur Marchebank annonça
« Écartez-vous de vos chaudrons, s'il vous plaît. L'examen est terminé !»
Harry boucha le flacon contenant son échantillon avec l'impression qu'il n'aurait sans doute pas une très bonne note, mais qu'au moins, il ne serait pas recalé.
Il reste seulement 4 examens,
dit Parvati Patil d'une voix lasse, tandis qu'il retournait dans la salle commune de Gryffondor.
Seulement, répliqua sèchement Hermione. Moi, je dois passer l'arithmancie, et c'est sans doute la matière la plus difficile qui soit.
Personne ne se montra assez sot pour risquer un commentaire. Hermione renonça donc à déverser sa bile sur eux et en fut réduite à rappeler à l'ordre quelques élèves de première année qui riaient trop fort dans la salle commune. Harry était décidé à réussir son examen de soins aux créatures magiques du mardi pour ne pas décevoir Hagrid. L'épreuve pratique avait lieu l'après-midi en bordure de la forêt interdite. On demandait aux élèves d'identifier un noueud dissimulé au sein d'une douzaine de hérissons. L'astuce consistant à proposer du lait à chacun. Les noueux, créatures très méfiantes, dont les piquants possèdent de nombreuses propriétés, devenaient généralement fous de rage face à ce qu'ils considéraient comme une tentative d'empoisonnement. Les candidats devaient également montrer qu'ils savaient manipuler correctement un beau truc. Puis il leur fallut nourrir et nettoyer un crabe de feu sans subir de brûlures graves. Et enfin, choisir dans une vaste sélection d'aliments ce qui pouvait le mieux convenir à une licorne malade. Harry voyait Hagrid les observer d'un air inquiet depuis la fenêtre de sa cabane. Quand l'examinatrice, une petite sorcière replète cette fois-ci, lui sourit en disant qu'il pouvait partir, Harry leva brièvement le pouce en direction de Hagrid avant de retourner au château. Le mercredi matin, l'épreuve théorique d'astronomie ne se passa pas trop mal. Harry n'était pas sûr d'avoir indiqué correctement les noms de toutes les lunes de Jupiter, mais au moins, il était sûr qu'aucune d'entre elles n'était couverte de garce. Il fallait attendre le soir pour passer l'épreuve pratique. Entre-temps, l'après-midi était consacré à la divination. Même compte tenu des modestes exigences de Harry en la matière, l'examen se passa très mal. D'abord, il ne distingua rien de plus dans la boule de cristal obstinément vide que s'il avait espéré voir des images animées à la surface du bureau. Ensuite, il perdit complètement ses moyens en interprétant les feuilles de thé et annonça au professeur Marchebank qu'à son avis, elle n'allait pas tarder à rencontrer un inconnu trempé jusqu'aux os, au teint sombre et à la silhouette rebondie. Enfin, pour pas faire le fiasco, il confondit ligne de vie et ligne de tête lorsqu'il lui examina la main et l'informa qu'elle aurait dû mourir le mardi précédent.
De toute façon, celui-là, c'était sûr qu'on le raterait, dit Ron d'un air lugubre tandis qu'il montait l'escalier de marbre.
Il consola un peu Harry en lui racontant comment il avait décrit en détail l'image d'un homme très laid, affligé d'une grosse verrue sur le nez qu'il voyait nettement dans la boule de cristal, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait du visage de l'examinateur dont le reflet lui apparaissait à la surface de la sphère.
« On n'aurait jamais dû choisir cette matière stupide, » dit Harry. « Au moins, on peut l'abandonner maintenant. »«
Ouais, on sera plus obligé de faire semblant de s'intéresser au rapprochement de Jupiter et d'Uranus. »
Et à partir d'aujourd'hui, même si des feuilles de thé m'écrivent sous le nez « Tu dois mourir bientôt, Ron », je les remettrai à leur place, c'est-à-dire à la poubelle. »
Harry éclata de rire tandis qu'Hermione les rattrapait en courant. Il reprit aussitôt son sérieux de peur d'aggraver sa mauvaise humeur.
« Je crois que j'ai bien réussi l'arithmancie, »
dit-elle. Harry et Ron poussèrent tous deux un grand soupir de soulagement.
« J'ai juste le temps de jeter un coup d'œil aux cartes du ciel avant le dîner et ensuite... »
Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la tour d'astronomie à 11 heures du soir, la nuit paisible et sans nuages était parfaite pour observer les étoiles. Le parc baignait dans la lueur argentée du clair de lune et une légère fraîcheur agrémentait l'atmosphère. Les candidats réglèrent leur télescope et au signal du professeur Marchebank commencèrent à remplir la carte vierge qu'on leur avait donnée. Les professeurs Marchebank et Tufty passaient parmi eux tandis qu'ils inscrivaient la position précise des étoiles et des planètes observées. On n'entendait que le bruissement des parchemins, le grincement occasionnel d'un télescope qu'on ajustait sur son trépied et le grattement des plumes. Une demi-heure passa, puis une heure. Les petites taches dorées qui se reflétaient sur la pelouse disparaissaient peu à peu à mesure que s'éteignaient les lumières du château. Au moment où Harry achevait d'indiquer la constellation d'Orion sur sa carte, les portes du château s'ouvrirent sous le parapet derrière lequel il se tenait, et une vive clarté illumina la pelouse. Tout en rectifiant légèrement la position de son télescope, Harry jeta un coup d'œil en bas et vit les ombres allongées d'un groupe de 5 personnes apparaître à la surface de l'herbe brillamment éclairée avant que les portes ne se referment, replongeant le parc dans les ténèbres. Harry regarda à nouveau à travers le télescope et fit le point sur Vénus. Lorsqu'il se pencha sur sa carte du ciel pour y inscrire la planète, quelque chose détourna son attention. Sa plume suspendue au-dessus du parchemin, il s'immobilisa scrutant l'obscurité du parc. Les silhouettes dont il avait vu les ombres traversaient à présent la pelouse. Seuls leurs mouvements et le clair de lune qui ourlait le sommet de leur tête permettaient de les distinguer dans le noir. Mais même à cette distance, Harry eut la drôle d'impression de reconnaître la démarche de la plus petite des silhouettes qui semblait mener le groupe. Il ne comprenait pas ce qui aurait pu inciter Ombrage à faire un tour dehors après minuit, encore moins accompagné de quatre personnes. Il entendit alors quelqu'un tout sauter derrière lui et se souvint qu'il était en plein examen. Il avait complètement oublié la position de Vénus et dut à nouveau coller son œil contre le télescope pour la retrouver. Il s'apprêtait à l'inscrire enfin sur sa carte lorsque, à l'affût du moindre bruit insolite, il entendit retentir dans le parc désert des coups frappés à une porte, immédiatement suivis des aboiements étouffés d'un gros chien. Il leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. Les silhouettes qui avaient traversé la pelouse se détachaient à présent contre les fenêtres éclairées de la cabane de Hagrid. La porte s'ouvrit et il vit distinctement 6 personnes en franchir le seuil. Puis la porte se referma et ce fut de nouveau le silence. Harry se sentait mal à l'aise. Il regarda par-dessus son épaule pour voir si Ron et Hermione avaient remarqué ce qui venait de se passer, mais au même instant, le professeur Marchbank arriva derrière lui. De peur de lui laisser penser qu'il jetait un coup d'œil au travail des autres, Harry se pencha à nouveau sur sa carte et fit semblant d'y ajouter quelques notes. En réalité, il observait la cabane de Hagrid par-dessus le parapet. Les silhouettes se déplaçaient à présent derrière les fenêtres et masquaient provisoirement la lumière. Sentant le regard du professeur Marchbank dans son dos, il colla son œil contre son télescope et observa la lune dont il avait déjà inscrit la position une heure plus tôt. Alors que le professeur Marchbank s'éloignait, il entendit en provenance de la cabane un rugissement qui résonna dans l'obscurité jusqu'au sommet de la tour d'astronomie. À côté de lui, plusieurs élèves se détournèrent de leur télescope et regardèrent en direction de la cabane de Hagrid. Le professeur Tufty tout sauta.
« Mesdemoiselles et messieurs, essayez de vous concentrer, s'il vous plaît, »
dit-il à mi-voix. La plupart des élèves reprirent leurs observations. Harry regarda vers sa gauche. Hermione, pétrifiée, fixait le fond du parc.
« Plus que 20 minutes, »
dit le professeur Tufty. Hermione sursauta et reporta aussitôt son attention sur sa carte du ciel. Harry retourna également à la sienne et remarqua qu'il avait indiqué le nom de Mars sous la planète Vénus. Il se pencha pour corriger l'erreur.
« Bang !»
Une détonation retentit au dehors.
« Aïe, aïe, aïe !»
Plusieurs élèves s'étaient mis le télescope dans l'œil en tournant trop vite la tête vers le parc. La porte de la cabane s'ouvrit à la volée, et dans la lumière qui jaillissait de l'intérieur, on vit nettement la forme massive de Hagrid qui rugissait, les poings brandis, entouré de 6 personnes dont chacune, à en juger par les minuscules rayons de lumière dirigés vers lui, essayait de le stupéfixer.
« Non !»
s'écria Hermione.
« Mademoiselle, voyons !»
dit le professeur Tufty scandalisé.
« Ceci est un examen !»
Plus personne, cependant, ne s'intéressait à la carte du ciel. Des jets de lumière rouge continuaient de jaillir du côté de la cabane, mais on aurait dit qu'ils rebondissaient sur Hagrid. Autant que Harry pouvait en juger à cette distance, il était toujours debout et résistait à ses assaillants. Des hurlements, des vociférations s'élevaient dans le parc. Un homme s'écria
« Soyez raisonnable, Hagrid !»
Ce dernier poussa un nouveau rugissement.
Raisonnable ! Va donc au diable ! Tu ne mourras pas comme ça, Dolish !
Harry apercevait la minuscule silhouette de Croque-Dur qui essayait de défendre Hagrid en sautant sur ses agresseurs jusqu'à ce qu'un sortilège de stupéfaction le frappe de plein fouet. Le molosse s'effondra à terre. Avec un hurlement de fureur, Hagrid souleva alors le coupable et le projeta en l'air. L'homme fit un vol plané d'au moins 3 mètres et ne se releva pas. Hermione étouffa une exclamation, les deux mains sur sa bouche. Harry se tourna vers Ron, lui aussi paraissait terrifié, jamais il n'avait vu Hagrid dans un tel état de rage.
« Regardez !»
Quina Parvati penchée par-dessus le parapet. Elle montrait le pied du château où la porte d'entrée s'était ouverte à nouveau. De la lumière jaillit dans l'obscurité du parc et une ombre unique, longue et noire, ondula sur la pelouse.
« Allons, voyons !» dit le professeur Tufty d'un ton anxieux. « Il ne reste plus que 16 minutes, vous savez !»
Mais personne ne lui accorda la moindre attention. Tous suivaient des yeux la silhouette qui courait à présent vers le lieu du combat.
« Comment osez-vous » s'écria-t-elle. « Comment osez-vous ?
C'est McGonagall !»
murmura Hermione.
« Laissez-le ! Je vous dis de le laisser !»
s'exclama la voix du professeur McGonagall dans l'obscurité.
« De quel droit l'attaquez-vous ? Il n'a rien fait qui puisse justifier !»
Hermione, Parvati et Lavande poussèrent un hurlement simultané. Devant la cabane, les silhouettes avaient projeté pas moins de 4 éclairs de stupéfaction sur le professeur McGonagall. Les rayons rouges la frappèrent à mi-chemin entre la cabane et le château. Pendant un instant, elle sembla s'illuminer entourée d'un inquiétant halo rougeâtre, puis elle fut projetée dans les airs et retomba brutalement sur le dos. Étendue de tout son long, elle ne bougeait plus.
« 1000 milliards de gargouilles galopantes !»
s'écria le professeur Tufty, qui semblait avoir à son tour complètement oublié l'examen.
« Sans la moindre sommation, une conduite scandaleuse !»
« Lâche !»
hurla Hagrid. Sa voix parvint nettement jusqu'au sommet de la tour et des lumières s'allumèrent à l'intérieur du château.
« Ignoble lâche ! Prenez ça et ça !»«
Oh là là !»
s'étrangla Hermione. Hagrid balaya de 2 énormes coups de poing à ses agresseurs les plus proches qui s'effondrèrent aussitôt, assommés net. Harry vit alors Hagrid se courber en deux et pensa qu'il avait été touché par un sortilège. Mais un instant plus tard, il s'était redressé, portant sur son dos quelque chose qui ressemblait à un sac. Harry comprit qu'il s'agissait du corps inerte de Croque-Dur, couché en travers de ses épaules.
« Attrapez-le ! Attrapez-le ! »
cria Ombrage. Mais le seul de ses acolytes encore debout ne paraissait guère empressé de se mettre à portée du poing de Hagrid. Il recula si vite qu'il trébucha contre le corps étendu de l'un de ses collègues et tomba en arrière. Hagrid avait tourné les talons et s'enfuyait, Croque-Dur toujours sur son dos. Ombrage lança vers lui un dernier éclair de stupéfaction, mais elle rata son coup et Hagrid, courant à toutes jambes vers le grand portail, disparut dans l'obscurité. Il y eut un long silence fébrile pendant lequel tout le monde scruta le parc bouche bée. Puis la voix du professeur Tufty annonça faiblement
« Plus que 5 minutes !»
Bien qu'il n'eût rempli que les 2/3 de sa carte, Harry avait hâte que l'examen se termine. Lorsque le moment arriva enfin, Ron, Hermione et lui rangèrent tant bien que mal leurs télescopes dans leurs étuis, puis se précipitèrent dans l'escalier en colimaçon. Personne n'alla se coucher. Tous les élèves restèrent au bas des marches à parler d'un ton surexcité de ce qu'ils venaient de voir.
« Quelle horrible bonne femme !»
halta Hermione, dont la rage était telle qu'elle avait du mal à articuler.
« Prendre Hagrid par surprise, en pleine nuit !»«
Elle voulait éviter une nouvelle scène genre Trelawney !»
dit avec pertinence Ernie Macmillan qui s'était faufilé jusqu'à eux.
« Hagrid a bien réagi, hein ?»
dit Ron, plus inquiet qu'impressionné.
« Comment ça fait que tous les sortilèges aient rebondi sur lui ?»« Ça doit venir de son sang de géant !»
expliqua Hermione d'une voix tremblante.
« C'est très difficile de stupéfixer un géant. Ils sont comme les trolls, vraiment coriaces. Mais le professeur McGonagall, la malheureuse, 4 éclairs de stupéfaction en pleine poitrine, et à son âge en plus.
« Abominable ! Abominable !»
commenta Ernie en hochant la tête avec emphase.
« Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde !»
Autour d'eux, les élèves s'éloignaient peu à peu en continuant de parler avec animation de la scène qui s'était déroulée sous leurs yeux.
« Au moins, ils n'ont pas réussi à emmener Hagrid à Azkaban, » dit Ron.
« Et j'imagine qu'il est allé rejoindre Dumbledore, vous croyez pas ?»«
Sans doute !»
répondit Hermione qui paraissait au bord des larmes.
« Oh, c'est vraiment affreux. Je pensais que Dumbledore reviendrait très vite et maintenant nous avons perdu Hagrid également. »
Ils retournèrent d'un pas traînant dans la salle commune de Gryffondor qui était bondée. Le tumulte dans le parc avait réveillé plusieurs élèves qui s'étaient empressés de tirer les autres de leur lit. Seamus et Dean, arrivés avant Harry, Ron et Hermione, racontaient à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu depuis le sommet de la tour d'astronomie.
« Mais pourquoi renvoyer Hagrid maintenant ?»
demanda Angelina Johnson en hochant la tête.
« Ce n'est pas comme Trelawney. Il a bien fait de meilleurs cours que d'habitude cette année. Ombrage déteste les hybrides,
répondit Hermione d'un ton amer en se laissant tomber dans un fauteuil.
Elle voulait absolument se débarrasser de lui. « Et puis, elle pensait que c'était Hagrid qui mettait les nifleurs dans son bureau !»
intervint Cathy Bell.
« Oh, nom d'une gargouille !»
dit Lee Jordan en se plaquant une main contre la bouche.
« C'est moi qui ai mis les nifleurs. Fred et George m'en avaient laissé deux. Je les ai fait léviter par la fenêtre. »
« De toute façon, elle l'aurait renvoyé, » assura Dean. « Il était trop proche de Dumbledore. »
« C'est vrai, »
approuva Harry qui s'enfonça dans un fauteuil à côté d'Hermione.
« J'espère que le professeur McGonagall ne va pas trop mal, »
dit Lavande, les larmes aux yeux.
« Il l'a ramené au château. On a vu ça par la fenêtre du dortoir, »
raconta Colin Crivet.
« Elle n'avait pas l'air en bon état. »«
Madame Pomme-Fraîche arrivera sûrement à la remettre sur pied, »
assura Alicia Spinett.
« Elle réussit toujours à guérir tout le monde. »
Il était près de 4 heures du matin lorsque la salle commune se vida enfin. Harry se sentait parfaitement éveillé. L'image de Hagrid s'enfuyant dans la nuit le hantait. Il éprouvait à l'égard d'Ombrage une telle fureur qu'il ne pouvait imaginer de châtiment assez féroce contre elle, bien que la suggestion de Ron de la livrer à une bande de scrouts à pétards affamés ne lui parût pas sans mérite. Il finit par s'endormir en envisageant les plus atroces vengeances et se leva 3 heures plus tard avec l'impression de ne pas s'être reposé du tout. Leur dernier examen, Histoire de la magie, n'avait lieu que l'après-midi. Harry se serait volontiers recouché après avoir pris son petit déjeuner, mais il avait prévu de passer la matinée à des révisions de dernière minute. Il alla donc s'installer près d'une fenêtre de la salle commune, et la tête dans les mains, essaya de toutes ses forces de ne pas somnoler en lisant quelques notes extraites de la pile de parchemins d'au moins 1 mètre de hauteur qu'Hermione lui avait prêtée. Les 5e années entrèrent dans la grande salle à 2 heures de l'après-midi, et s'installèrent à leurs tables sur lesquelles les questionnaires d'examen étaient retournés pour qu'on ne puisse pas voir les sujets. Harry se sentait épuisé. Il avait envie d'en finir au plus vite pour pouvoir dormir. Le lendemain, Ron et lui iraient faire un tour sur le terrain de Quidditch. Harry volerait un peu sur le balai de Ron et savourerait enfin la liberté de ne plus avoir à réviser quoi que ce soit.
« Retournez vos questionnaires !»
dit le professeur Marchebanque au bout de la salle en faisant pivoter le sablier géant.
« Vous pouvez commencer ?»
Harry regarda fixement la première question. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il n'en avait pas compris un mot. Une guêpe qui bourdonnait contre l'une des hautes fenêtres l'empêchait de se concentrer. Enfin, lentement, et avec bien des détours, il commença à écrire une réponse. Il avait beaucoup de mal à se rappeler les noms et confondait sans cesse les dates. Il décida de sauter la 4e question. « À votre avis, la législation sur les baguettes magiques a-t-elle favorisé les émeutes de gobelins au 18e siècle ou, au contraire, a-t-elle permis de mieux les contrôler ?» En se disant qu'il y reviendrait peut-être à la fin s'il avait le temps. Il essaya de répondre à la 5e question. « Comment le code du secret fut-il violé en 1749 ?» et quelles mesures furent prises pour éviter que cette situation ne se reproduise. Mais il eut l'impression persistante d'avoir omis plusieurs points importants. Il lui semblait vaguement que les vampires avaient eu un rôle à jouer dans l'histoire à un certain moment. Il chercha une question à laquelle il était sûr de pouvoir répondre, et tomba sur la numéro 10. « Décrivez les circonstances qui ont mené à la fondation de la Confédération internationale des sorciers et expliquez pourquoi les sorciers du Liechtenstein refusèrent d'y adhérer.
Oh, »« Ça je le sais, »
songea Harry, bien que son cerveau lui parut ramolli et cotonneux. Il revoyait dans sa tête un titre écrit par Hermione, « La fondation de la Confédération internationale des sorciers ». Il avait lu ses notes le matin même. Il commença à écrire en jetant de temps en temps un regard à l'énorme sablier posé sur le bureau à côté du professeur Marchebanque. Il était assis juste derrière Parvati Patil dont les longs cheveux bruns tombaient plus bas que le dossier de sa chaise. Une fois ou deux, il se surprit à contempler les minuscules éclats d'or qui brillaient dans sa chevelure lorsqu'elle remuait légèrement la tête et dut secouer un peu la sienne pour s'éclaircir les idées.
« Le premier Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers fut Pierre Bonaccord, mais la communauté des mages du Liechtenstein contesta sa nomination en raison. »
Tout autour de Harry, les plumes grattaient les parchemins comme des rats affairés à creuser une galerie. Le soleil lui brûlait la nuque. Qu'avait donc fait Bonaccord pour déplaire aux mages du Liechtenstein ?
Harry avait l'impression qu'il s'agissait d'une histoire de troll. Il posa à nouveau un regard vide sur les cheveux de Parvati. Si seulement il avait pu pratiquer la légilimensie et ouvrir une fenêtre dans sa tête pour y voir si c'était bien la question des trolls qui avait opposé Pierre Bonaccord au Liechtenstein. Harry ferma les yeux et plongea son visage dans ses mains. Ses paumes rafraîchirent ses paupières dont la rougeur luisante s'assombrit peu à peu.
Bonaccord avait voulu déclarer illégale la chasse aux trolls et leur donner des droits. Or, le Liechtenstein rencontrait de sérieuses difficultés avec une tribu de trolls des montagnes particulièrement féroces. C'était ça. Il rouvrit les paupières et ressentit un picotement dans les yeux tandis qu'il se remplissait de larmes, ébloui par le parchemin d'un blanc étincelant. Lentement, il écrivit deux lignes sur les trolls, puis relut tout ce qu'il avait fait. Il n'avait pas donné beaucoup d'informations ni de détails, et pourtant, il se souvenait que les notes d'Hermione sur la Confédération s'étalaient sur des pages et des pages. Il ferma à nouveau les yeux, essayant de revoir dans sa tête ce qu'il avait écrit, de se souvenir. La Confédération s'était réunie pour la première fois en France, oui, ça il l'avait déjà dit. Les gobelins avaient essayé d'y assister et s'étaient fait expulser, ça aussi il en avait parlé. Et personne n'avait voulu venir du Liechtenstein. « Réfléchis !» s'ordonna-t-il à lui-même, le visage dans les mains. Autour de lui, les plumes écrivaient dans un grattement incessant des réponses interminables pendant que le sable s'écoulait lentement dans le sablier. Il marchait à nouveau dans le couloir sombre et frais qui menait au département des mystères. Parfois, il se mettait à courir, décidé à atteindre enfin son but. La porte noire s'ouvrait comme d'habitude et il se retrouvait dans la salle circulaire avec toutes les autres portes. Il la traversait en arpentant le sol de pierre et franchissait la deuxième porte. Toujours les taches de lumière sur les murs et cet étrange cliquetis mécanique. Mais pas le temps d'explorer les lieux, il fallait se dépêcher. Il parcourait au pas de course les quelques mètres qui le séparaient de la troisième porte. Elle s'ouvrait comme les autres. Une fois de plus, il se retrouvait dans la salle vaste comme une cathédrale remplie d'étagères et de globes de verre. Son cœur battait très vite à présent. Cette fois, il allait y arriver. Lorsqu'il atteignit le numéro 97, il tournait à gauche et se hâtait de parcourir l'allée entre les deux rangées d'étagères. Mais tout au bout, une forme se dessinait sur le sol, une forme noire qui remuait comme un animal blessé. Harry sentait son estomac se serrer sous l'effet de la peur et de l'excitation. Une voix s'élevait alors de sa propre bouche, une voix glacée, aiguë, dépourvue de toute chaleur humaine.
« Prends-la pour moi ! Rapporte-la ! Je ne peux pas y toucher, mais toi, tu peux !»
Sur le sol, la forme noire bougeait légèrement. Harry voyait une main aux longs doigts blafards serrés sur une baguette magique se lever au bout de son propre bras. Puis il entendait la voix glacée prononcer le mot
« Andoloris !»
L'homme étendu par terre laissait échapper un cri de douleur. Il essayait de se relever, mais retombait en se tortillant sur le sol. Harry éclatait de rire. Il brandissait sa baguette pour interrompre le maléfice et la silhouette à nouveau immobile poussait un gémissement.
« Lord Voldemort, attends !»
Très lentement, les bras tremblants, l'homme étendu par terre soulevait ses épaules de quelques centimètres et redressait sa tête. Son visage émacié était maculé de sang, tordu par la douleur, mais restait crispé dans une expression de défi.
« Tu devras me tuer !»
murmurait Sirius.
« Sans aucun doute, c'est ce que je finirai par faire !»
disait la voix glacée.
« Mais tu commenceras par aller me la chercher, Black. Tu crois donc que c'était vraiment de la douleur, ce que tu as éprouvé jusqu'à maintenant ? Réfléchis !» « Nous avons des heures devant nous et personne ne peut t'entendre. »
Quelqu'un se mettait alors à crier lorsque Voldemort abaissait à nouveau sa baguette. Quelqu'un qui hurlait et tombait d'une table brûlante sur la pierre froide. Harry se réveilla en heurtant le sol, hurlant toujours, sa cicatrice en feu, tandis que des clameurs s'élevaient tout autour de lui dans la grande salle.